Cours de philosophie éthique par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard le 3 mars 1994.
Cette recherche sur la naissance des vertus à partir de leur finalité immédiate, l'amour d'amitié, c'est pour arriver un amour d'amitié qui soit vrai, authentique, que les vertus cardinales sont nécessaires. Ce n'est pas pour le plaisir d'être vertueux, ça ne tient pas. Oui, ça tient momentanément si on est stoïcien. Le stoïcien aime la vertu pour la vertu. les sensibles au propre qui sont qualitatifs. La qualité comme telle refuse d'être accaparée. Elle est en acte. Tout ce qui est en acte a sa structure propre en soi. Tandis que les sensibles au commun impliquent toujours quelque chose qui est potentiel, indéterminé. Et alors, ils sont comme un appel vers l'accaparement. Et je crois que c'est l'accaparement de ce bien qu'on aime qui est la première corruption de l'amour, du premier amour. La rectification de ce premier amour, c'est l'intention qui nous fait passer du bien à la fin. Et la corruption de ce premier amour, c'est l'accaparement qui fait que le bien spirituel devient un bien sensible. Parce que je ne peux accaparer que le bien sensible. Je prends dans ma main. C'est ma propriété. Alors que le bien spirituel n'est pas ma propriété. Le jus amicitiae, c'est justement le droit d'accueillir l'ami. Mais accueillir l'ami, ce n'est pas l'accaparer. Il faut que l'ami soit aussi libre chez moi que s'il était seul chez lui. Autrement, je l'accapare. Vous savez, les gens qui vous reçoivent très très gentiment, mais on est dans une sacrée prison. Ils vous disent, tu es chez toi, tu peux faire tout ce que tu veux, et puis dès qu'on fait quelque chose d'un tout petit peu original de nous qui sort de l'autre, immédiatement, attends, non, ici on fait pas ça, ça se fait pas. Alors petit à petit, on sent que c'est une prison d'or, magnifiquement ornée, mais une prison. Ça arrive ces choses-là, c'est même très très curieux. J'ai dans ma tête une expérience comme ça de quelqu'un qui veut accaparer son ami, voyez, étant très riche, il veut accaparer son ami en faisant qu'il sera dans un appartement le plus luxueux possible, où tout est là. Et c'est la manière d'être présent à travers les bibelots. Alors l'ami est présent et accapare. Et au bout d'un certain temps, il s'aperçoit que cet appartement merveilleux, c'est une prison. Affectivement. C'est l'ami qui a tout payé pour accaparer son ami. C'est très subtil. Ça, c'est imaginatif. C'est la subtilité qui accapare. Je crois. Parce que c'est intéressant de voir les corruptions progressives de l'acte moral. C'est ce que le Saint-Père nous donne dans son encyclique. Les corruptions possibles de l'acte moral. Et comment ces corruptions, au fond, toutes proviennent de l'imaginaire. Il n'y a que l'imaginaire qui peut corrompre l'affectivité. Et par l'affectivité nous fait prisonnier, empêche l'intelligence d'être lucide. Et au bout d'un certain temps, on est prisonnier, on ne voit plus. Alors, on comprend comment il est nécessaire d'acquérir la vertu tempérante. La vertu de tempérance est une vertu qui canalise, humanise, rectifie le concupiscible. Et le concupiscible a un lien extrêmement fort avec l'imaginaire. Je dirais que le concupiscible est proche de l'imaginaire que l'irascible. nuisible. Est-ce que vous comprenez que le bien sensible, on veut qu'il soit présent. On ne peut pas supporter que le bien sensible soit absent. Parce que le bien sensible demande d'être présent. C'est ce que aujourd'hui, tous ceux qui sont pris par l'alcool, le tabac, la drogue, appellent le manque. C'est un joli comme mot. C'est terrible comme réalité, mais c'est bien ça, le manque. Qu'est-ce que c'est que le manque? C'est l'absence. C'est l'absence du bien sensible. Quand le bien sensible n'est pas là, n'est pas présent, c'est le manque. Mais le carême, c'est le temps du manque. Tellement habitué à la confiture, tellement habitué au beurre, tellement habitué à... Ah, bon, je suis... ah, absent, tiens, qu'est-ce qu'il y a? Je pourrais jamais manger, il n'est pas là. Le manque. Et on ne voit plus que ça. Et imaginativement, le manque grossit. Parce que comme manque, il n'a pas de limite. La privation n'a pas de limite. Et l'imaginaire fait que ce non-limite devient infini. Et vous bloque. Et vous inhibe complètement. Et vous êtes fixé là-dessus. Impossible de vous bouger. Il y a le manque. Alors vous avez le complexe océanique qui se crève là-dessus. Et c'est très joli le complexe océanique. Le complexe océanique, c'est de retourner au berceau. Je ne vais pas quitter mon lit. Mais c'est le manque. Le lit ou n'importe quoi d'autre. Mais tant par terre, ça revient au même. C'est le berceau. La vertu de tempérance lutte contre la subjectivité transcendantale de l'imaginaire à l'égard des biens sensibles. Je crois que c'est ça qu'il faut regarder dans ce qu'il y a de plus fondamental dans la vertu de tempérance. Ne pas être esclave des biens sensibles. Faire que notre personne, notre personnalité humaine, notre personne humaine qui s'éveille dans l'amour d'amitié, puisse se développer au-delà des biens sensibles. Parce que si on devient esclave des biens sensibles, vous voyez, on a derrière soi tout un cheptel de boucs, de brebis, de vaches, de chameaux, ça dépend des personnes. Et on ne peut pas le quitter. Ce troupeau qui nous suit de bien sensible. Et ça va très loin, quelquefois. L'accaparement imaginaire prend des modalités extrêmement variées. On ne peut pas vivre sans telle chose. Je ne peux pas vivre sans cigarette. Je ne peux pas vivre sans alcool. Je ne peux pas vivre sans telle personne, tel ami. Vous voyez, c'est la colle très forte de l'imagination qui vient nous lier à notre concupiscible, qui vient lier notre concupiscible à tel bien sensible. Vous voyez, dès qu'on est un tout petit peu lucide, sur notre concupiscible, on voit que c'est une espèce de lien qui se crée et qui s'impose par l'imaginaire et qui alors alourdit et empêche d'aimer d'une façon vraie, d'une façon spirituelle. La vertu de tempérance, c'est l'acte prudentiel qui vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. l'égard de quelque chose que vous aimez beaucoup. Ou un juge passionnel. Ou un ami que vous aimez passionnément. Où la passion est là. Vous l'aimez pas du tout en tant qu'ami, vous l'aimez parce que c'est votre bien. Oh, ce qui m'est avec celui-là, c'est merveilleux. On conquérant le monde. Ah, oui, oui, sensiblement. Affectivement. Passionnément. Parce que la passion fait mousser. On croit qu'on est tout puissant dès qu'on est passionné. On croit qu'on va tout conquérir. On est passionné par l'imaginaire. Ça mousse l'imaginaire. Si c'est le champagne intérieur, ça mousse et puis le bouchon éclate de temps en temps avec puissance. C'est ça le point de vue de l'imaginaire passionnel. Qu'est-ce qui peut lutter directement? C'est l'acte prudentiel. Ne fais pas ça. Tu vois, ça va te mener très loin. Non, non, arrête. Arrête. Oui. Il faut être intelligent pour lutter contre l'imaginaire. Il faut être intelligent. C'est l'intelligence qui lutte contre l'imaginaire. En premier lieu. Ce n'est pas la passion entre l'imaginaire et la passion. Il y a beaucoup trop de connivence. Et on est perdu d'avance. Tandis que l'intelligence pratique peut lutter contre l'imaginaire. Et la première lutte la plus fondamentale contre l'imaginaire, c'est cette lutte au niveau du concupiscible. Oui, le concupiscible, par nature, est lié à l'imaginaire. C'est la nourriture, c'est la boisson. Attentif à ça. Pour Aristote, premier ordre, le plus fondamental, c'est l'ordre temporel. C'est l'ordre du temps. Et quand vous commencez à avoir des troubles imaginatifs, vous commencez à confondre, aujourd'hui on est mercredi, ou est-ce qu'on est jeudi? Ah, je sais plus. Vous voyez, on confond. On commence à confondre. Et alors ça se voit à l'office, les grosses distractions. Mais ça prouve qu'on est encore endormi. Parce que comme dans le sommeil du jeudi, du mercredi au jeudi, ou le sommeil du mardi au mercredi, est le même. Alors évidemment, ça se projette sur la liturgie matinale. Pas celle de le prévit d'Evème, le moine d'Angers là, mais celui matinal. Et on voit très bien comment la première lutte contre le concupiscible, c'est d'introduire cet ordre temporel. Mais premier moment de l'éducation. L'éducation consiste à introduire l'intelligence pratique prudentielle dans le concupiscible. Et je dis bien génétiquement, c'est le concupiscible. L'irascible vient après. Il est beaucoup plus violent, l'irascible. Mais c'est pas parce qu'il est plus violent qu'il est antérieur. L'irascible vient au service du concupiscible. Le concupiscible est plus fondamental. Et donc l'éducation doit porter sur le plus fondamental quand une vraie éducation. Et non pas premièrement sur l'aspect de l'irascible. Ça, c'est très intéressant à voir. Alors il faudrait, voyez, parce que c'est Freud, là. Freud a compris quand même là quelque chose qui était très intéressant, c'est que l'aspect fondamental, c'est le concupiscible. Ce que je crois. L'irascible vient après, et l'irascible est toujours au service du concupiscible. Le gosse gris, quand il n'a pas eu la satisfaction du concupiscible, le biberon. Parce que lui, il n'a pas de pendule dans l'estomac. C'est le pédagogue qui a une pendule dans l'estomac. Et quand la pendule l'emporte sur l'estomac, il n'est plus que pendule. Alors, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est ça qu'on appelle le formalisme en éducation. Alors, quand vous voyez quelqu'un qui est un petit peu formalisé en éducation, ah oui, la pendule à tout prix, tu n'as plus d'estomac. L'aspect, l'intelligence prudentielle l'emporte complètement sur l'aspect de l'appétit sensible. Alors il faut toujours comprendre que l'appétit sensible ne doit pas être supprimé, il doit être éduqué. Supprimer l'appétit prudentiel, l'appétit sensible lié à l'instinct, c'est très grave. Vous voyez, parce que c'est tuer l'instinct. C'est très grave, ça. C'est rendre les gens insensibles. Et l'insensibilité, pour Aristote, c'est le pire des vices. Et l'aspect prudentiel est au service, il éduque. Il éduque de l'intérieur. Mais il n'est pas impératif. Alors, ensuite, il y a le concupiscible lié à l'aspect sexuel. Alors qu'il naît plus ou moins vite, suivant les pays, suivant les races. C'est très curieux, ça. Tandis que le concupiscible, il est l'œcuménisme de toutes les races. Ça, c'est évident. Tout le monde. Le biberon a des couleurs différentes, mais c'est toujours le même. Et le concupiscible lié au point de vue sexuel, c'est non plus l'individu, mais c'est la nature. C'est la nature qui demande la survie. Vous voyez, le sexuel, c'est le cri de la nature pour survivre. C'est extrêmement curieux, ça. Et c'est très beau de regarder ça au plan proprement éducatif, au plan éthique. Et puis après, on peut avoir une vision de sagesse de Dieu pour c'est les racines les premiers. Pour nous, indépendamment de cette vision de sagesse, mais cette vision de sagesse vient confirmer ça. Pour nous, ce qui est premier dans l'expérience, c'est toujours le concupiscible qui est fondamental. Donc le concupiscible a deux volets.
Le corps pris comme individu et le corps pris comme...
faire que du côté de la nourriture, comme du côté du corps, il y ait comme un rejet. Et on le sait qu'aujourd'hui, ça s'étend énormément, cela. On n'aime plus son corps, donc on n'aime plus l'aliment. Et on rejette l'aliment et on ne veut plus manger. Et ne plus vouloir manger, c'est, vous voyez, parce qu'on rejette le corps. On ne l'accepte pas. Et ça se traduit là. Alors à ce moment-là, c'est parce que, justement, les passions peuvent être en état de contraire, d'opposition. Il y a le rejet de la nourriture, il y a les boulimies. On veut manger tout le temps. Et le point de vue de l'intelligence pratique est là pour rendre le concupiscible rationnel, humain, au service de l'amour d'amitié. Que la nourriture ne soit pas rivale de l'ami. Parce que si le concupiscible se développe pour lui-même, le concupiscible empêche un amour spirituel, donc empêche l'amitié. Et c'est vrai, quelqu'un qui est terriblement pris par le point de vue, il y a un égoïsme foncier dans le concupiscible. Un égoïsme foncier. Il faut vivre. Et c'est moi, l'individu, qui dois vivre. Et pour ça, il faut manger. Si je mange plus, ça va pas. Mais les jours de jeûne, le concupiscible, animé par l'adversaire, augmente. Oh, jamais je pourrais tenir. C'est impossible. Non, j'ai rien mangé ce matin. Je pourrais jamais tenir. Et quand il y a un exercice religieux à la fin de la matinée et qu'on a rien manger du tout. Et que. Alors ça devient effrayant. Parce que ce n'est pas l'affectivité religieuse qui calme l'estomac. Au contraire. C'est beaucoup plus violent à ce moment-là. Mais tout le monde sait qu'on n'a jamais tant pensé au repas qu'au début de sa vie religieuse. Et on n'a jamais tant pensé au repas que pendant le carême. C'est extraordinaire, ça. Vous voyez ? Et c'est normal, ça. C'est pas effrayant, c'est pas un manque de spiritualité. C'est une lutte contre le concupiscible. Parce qu'il faut dire, mais j'ai régressé depuis que j'entrais. Avant, je ne pensais pas. Tandis que maintenant, j'y pense. Et oui, mais c'est normal. Vous n'aviez jamais éduqué votre concupiscible. Vous entriez à la maison, j'ai faim, on prend un bout de chocolat, j'ai faim, bon, n'importe quel moment, mais très bien. Vous avez caressé votre concupiscible. Elle dit, bon, ma vieille bête, tu peux prendre tout ce que tu veux. Tu prends tout ce que tu veux. Alors le jour, il faut commencer à dire, ah non, je dois l'éduquer. Quelqu'un qui est trop passionné par le concupiscible ne pourra pas vivre la vie religieuse, c'est impossible. Ne pas manger la matinée, prendre qu'un petit repas le matin. Puis, oh, c'est impossible, je peux pas. C'est impossible. l'appétit sexuel. C'est toujours la prudence, l'intelligence pratique qui vient éduquer le point de vue du concupiscible. Alors, il y a la vertu de prudence, la vertu de tempérance. La vertu de tempérance, selon le langage platonicien, c'est le frein. Et la vertu sera là pour mettre